Bien, mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir et le grand honneur d'ouvrir cette célébration des 20 ans du groupe Société, Religion et Laïcité. Le grand honneur aussi d'accueillir à ma droite le président de l'école pratique des hautes études, Monsieur Hubert Bost, et à ma gauche, remplaçant Patrice Bourdelais, la directrice adjointe de l'Institut national des sciences humaines et sociales du CNRS. Voilà. Je vais donc leur... Ah, alors ça vient peut-être... Est-ce que si je... Ah oui, bien sûr. Alors, il faut vraiment rapprocher le micro. Bien, j'ai le grand plaisir et le grand honneur d'ouvrir cette célébration des 20 ans du GSRL. Grand plaisir et grand honneur aussi d'accueillir à ma droite le président de l'école pratique des hautes études et puis à ma gauche la directrice adjointe de l'Institut national des sciences humaines et sociales du CNRS. Je vais leur donner la parole pour ouvrir ce colloque et je la reprendrai ensuite pour vous faire une présentation d'ensemble peut-être de notre laboratoire. Peut-être notre président Hubert Bost.
Merci. Merci Philippe et merci à tous les amis membres passés et présents du GSRL de cet accueil. C'est pour moi un très grand plaisir de prononcer quelques mots à l'ouverture de ce colloque des 20 ans après du GSRL et de durant 20 ans, les mutations des sciences sociales, des religions et des laïcités. Il m'a été suggéré d'être concis. Et c'est évidemment tout à fait nécessaire lorsqu'on mesure, en lisant ce riche programme, le gros travail, le passionnant travail aussi, qui vous attend durant ces deux jours. Ce sera en tout cas un anniversaire studieux. Mais du reste, ce que je souhaite dire ici comme président de l'école pratique des hautes études tient en peu de mots. Simplement, ce sont des mots très sincères, des mots sentis, et non des paroles protocolaires, Philippe le sait. Je voudrais dire brièvement trois choses. D'abord, le soutien fort, le soutien déterminé que l'école pratique des hautes études apporte et continuera d'apporter avec le CNRS, Madame Olitreau le dira dans un instant, apporte et continuera d'apporter à cette UMR dont l'existence, pour ne pas dire la nécessité dans le domaine des SHS, est une parfaite évidence. Et qu'il soit bien clair que je ne parle pas ici le nez collé à l'actualité récente et que je ne me limite pas non plus au périmètre parisien ni même français. Les sciences sociales des religions et des laïcités, pour reprendre le syntagme du titre, ont élaboré des objets d'études extrêmement complexes, mais d'une importance et d'un impact mondial qui sautent aux yeux. La seconde chose que je voudrais dire, toujours en peu de mots, mais des mots sentis et sincères, est un hommage aux trois directeurs qui se sont succédés à la tête de cette UMR. Je passe ici sur les changements de statut et l'évolution de l'acronyme. Je parle de Jean Bobéro, son fondateur, de 1995 à 2002, de Jean-Paul Willem, de 2002 à 2008, et de Philippe Portier, depuis. Avec leur appui et sous leur responsabilité, l'École pratique des hautes études et le CNRS ont su faire émerger et consolider une équipe performante, dynamique, très bien évaluée, riche en résultats, riche en projets. Les protagonistes de cette belle aventure à différentes époques, de cette belle aventure intellectuelle, scientifique et humaine, peuvent, je crois, être légitimement fiers, mais aussi confiants dans l'avenir du GSRL. Un troisième mot, enfin, pour dire que dans la conception que s'en fait l'école pratique des hautes études, le GSRL fait en partie système avec l'IESR, l'Institut européen des sciences en sciences religieuses. Jean-Paul Willem, qui en a été le directeur, les collègues qui interviennent fréquemment dans les formations ici le savent. On peut bien sûr dire en une première approche superficielle qu'il y aurait un pôle scientifique et un pôle de valorisation, ou distinguer l'aspect recherche et l'aspect formation, mais en fait, cela va beaucoup plus loin. Les fonctions d'expertise, d'observatoire et les travaux des chercheurs sont pris dans une interaction dynamique qui peut certes encore être améliorée, et nous aimerions continuer tant à l'EPHE que certainement au CNRS, mais je ne parlerai pas à sa place, continuer à offrir des moyens dont tous deux, l'IESR et le GSRL, ont besoin. Mais ce tandem, cette interaction dynamique, ont d'ores et déjà, me semble-t-il, fait leur preuve. Je m'arrête là. Je fais des vœux, mais ils sont confiants pour la fécondité de vos travaux. Je vous prie également d'excuser le fait que je devrais m'éclipser tout à l'heure avant la suite, car, comme le disait un de mes collègues à la section des sciences religieuses, je n'ai pas le don de bilocation. Je passe la parole, ou je la rends plutôt, au directeur du GSRL. Merci Philippe.
Merci mon cher Hubert. J'ai le plaisir aussi de donner la parole maintenant à Sylvie Olitreau, qui a été ma collègue à l'Université de Rennes, que j'ai plaisir à retrouver maintenant en tant que directrice adjointe de l'Institut national des sciences humaines et sociales. Sylvie.
Merci Philippe. Donc, cher président Bosque, cher monsieur le directeur, chers collègues, d'abord je dois excuser Patrice Bourdelais qui effectivement devait parler ce matin. Il a été, disons-nous, encore bousculé par un agenda de plus en plus compliqué à gérer, notamment, oui, puisqu'on n'a pas le don d'ubiquité ou de bipolarisation et d'être dans deux endroits en même temps. Mais je me suis portée d'autant plus volontaire que, comme vient de le rappeler Philippe, j'ai eu l'occasion de connaître Philippe Portier à Rennes et que Philippe Portier était alors jeune maître de conférence et moi-même en doctorat. Et un plaisir aussi, parce qu'avant, je dirais, d'entrer dans le protocole CNRS, autre plaisir de revoir et de manifester aussi mon intérêt pour ce laboratoire qui est constitué aussi d'une jeune équipe de doctorants très dynamiques qui m'ont déjà invité dans leur séminaire sur écologie et religion. Donc, ce n'est pas une équipe inconnue au CNRS et inconnue, y compris voilà, dans des domaines scientifiques. Alors, évidemment, au-delà du plaisir personnel à retrouver des chercheurs connus, reconnus dans ce domaine des compétences des religions. En tant que membre de l'INSHS, je rappelle combien ce domaine de compétences rencontre un chantier de soutien de recherche qui se constitue à l'INSHS actuellement. Et là encore, des membres de l'UMR sont associés à ce type de réflexion puisqu'il y a une mise en place d'une mission de réflexion sur la constitution potentielle d'un GIS sur le fait religieux et sur les questions religieuses, qui est d'ailleurs menée par une de mes collègues, Marie Gaille. C'est donc plus qu'une UMR, je dirais, c'est une UMR qui peut constituer un champ de recherche et qui sera sans doute au cœur même de cette constitution de champ de recherche en sciences sociales. Alors pour une UMR, 20 ans, évidemment, c'est contrairement, je dirais, à l'âge biologique des individus, ça marque plutôt une maturité et une reconnaissance dans le monde académique. Et le GCRL a véritablement cette position. Le CNRS soutient d'autant plus ce type d'UMR qu'elle rencontre vraiment les priorités CNRS, c'est-à-dire l'internationalisation, le souci de s'ouvrir aux aires culturelles, notamment pour vous, le Vietnam, les aires, l'aire de l'Asie asiatique, et la pluridisciplinarité. Alors, comment traiter d'ailleurs le religieux d'une manière monodisciplinaire? Ça paraîtrait vraiment impossible. Et je pense qu'effectivement, une UMR thématique comme la vôtre rencontre vraiment cette idée que porte Patrice Bourdelais d'une plus-value, en quoi le CNRS est une plus-value au sein du CNRS, en quoi les SHS sont une plus-value au sein du CNRS, et lorsqu'elles apportent justement une plus-value d'internationalisation et d'interdisciplinarité. Donc le GSRL est véritablement, je dirais, au cœur même de cette politique portée par le CNRS. Alors, pour arriver à, je dirais, à cette dynamique, évidemment, il faut rappeler qu'il y a eu derrière l'investissement humain. Et on peut effectivement rappeler dans cette à la fois courte histoire et déjà longue histoire de l'UMR, la qualité des directeurs qui se sont succédés, Jean Bobéreau, Jean-Paul Willem et évidemment Philippe Portier, qui ont œuvré évidemment dans ce sens, à la fois de structuration et aussi de soutien. Et ça aussi, c'est un critère qui, au CNRS, est important, le soutien aux jeunes doctorants, aux jeunes scientifiques de demain, dans leur activité d'organisation et leur activité principale, qui est la production des thèses. Le CNRS ne peut que soutenir aussi ce volontarisme scientifique dans un contexte où la société a tant besoin et réclame de la science pour comprendre nos enjeux politiques et religieux et sociaux. La question qui revient maintenant et qui a, pour tout dire, le CNRS a été assailli de demandes sociales très récentes. Pourquoi les jeunes, par exemple, se retournent vers le religieux alors que la radicalité politique était plus, je dirais, affectionnée il y a quelques années? Pourquoi le religieux se recompose? Pourquoi on parle de sécularisation et qu'en réalité, les significations religieuses reviennent sous divers aspects, comme les questions d'éthique, comme la tension entre laïcité et religion? Toutes ces questions qui sont au cœur des débats à la fois politiques et à la fois sociétaux et médiatiques, il faut bien l'avouer, votre UMR les porte. Donc je pense qu'effectivement, vous êtes l'une des UMR sur lesquelles le CNRS, j'irais, porte un regard des plus intéressés. Alors, pour conclure, il faut savoir qu'effectivement, en ce moment, et je le dis d'autant plus puisque j'ai, le malheur, car pour moi c'est plutôt un malheur, de m'occuper du pôle radicalisation au CNRS, malheur au sens où on est sursollicité, surdemandé, et c'est lié à des événements dramatiques et récents, et qu'on aurait mieux aimé ne pas voir... à gérer, je dirais, ces questions. Il faut savoir qu'on nous demande souvent des solutions prêtes à l'emploi. Et vous allez avoir 2 jours de recherche. Hein. Et je pense que la recherche, évidemment, a besoin d'un autre temps que celui qui est le temps politique ou médiatique, a besoin d'un temps de réflexion. Et c'est pourquoi, cher directeur, cher Philippe, je pense que l'aventure du GCRL n'est pas terminée, et je crois que votre colloque est au cœur même de l'idée qu'elle n'est pas terminée. Et comme tu es breton, je me permets de te tutoyer, hein, breton et moi-même bretonne, on peut penser que toi, tu seras le capitaine qui va mener ce beau navire du GCRL au milieu de toutes ces tempêtes politiques, médiatiques et sociales, et pour accoster sur une belle île qui serait l'île de la raison. L'île de la raison, on commence à réfléchir un peu, on essaye de se poser pour essayer aussi peut-être parfois de complexifier ce qui est dit un petit peu dans tous les médias actuellement. Et j'espère que déjà ce colloque sera une île où on va réfléchir. Donc je vous souhaite un très bon colloque et tout le soutien du CNRS.
Bien, laissez-moi, chère Sylvie et cher Hubert, vous remercier très chaleureusement pour les mots si aimables que vous nous avez adressés et vous dire aussi toute notre gratitude pour le soutien sans faille que vos 2 établissements apportent depuis 20 ans maintenant à notre laboratoire. Le GSRL naît en 1995 de la fusion de 2 structures préexistantes. D'un côté, l'équipe Histoire et Sociologie de la laïcité, instituée en 1988 par Jean Bobéreau, au sein de la section des sciences religieuses de l'École pratique des hautes études. De l'autre, le groupe de sociologie des religions, créé en 1954, à l'initiative de Gabriel Lebras et de Henri Desroches, est maintenu après le départ de Daniel Hervieux-Léger à l'École des hautes études en sciences sociales et la création d'un autre laboratoire, le Centre d'études interdisciplinaires des faits religieux. Le groupe de sociologie des religions est alors dirigée par Françoise Lautmann. Les 2 laboratoires avaient tissé des liens, déjà. En témoigne la bi-appartenance de certains de leurs chercheurs et l'organisation de journées d'études communes. Un colloque au début des années 1990, « Pluralisme religieux et laïcité dans l'Union européenne », définit une ligne de réflexion qui se pérennisera. celle de travailler la religion et la laïcité de concert comme un ensemble organique, en considérant, comme le note le deuxième rapport du GSRL en 1999, que les mutations de la laïcité et les mutations de la religion doivent toujours être saisies en interrelation. Les choses ne sont pas si faciles à l'époque. Sans doute, la sociologie des religions s'est-elle construite son enclos. Il n'en va pas de même pour la sociologie de la laïcité. Et Jean Bobéro se voit opposer cette réflexion ici même, dans ses locaux. La laïcité, ça se vit, ce n'est pas un objet d'études sociologiques. Pourtant, malgré les oppositions, le nouveau laboratoire voit le jour. Il apparaît sur la carte administrative le 1er janvier 1995. Et depuis lors, son itinéraire l'a inscrit comme une réalité visible dans le champ académique, sur la scène nationale, sans doute, mais aussi, peut-être, sur la scène internationale. Comment rendre compte de sa situation 20 ans après ? Nous présenterons au cours de ces deux journées une grande partie de son capital de recherche. Je voudrais simplement, avant que nous n'entrions dans le détail de nos champs d'investigation, tenter de dresser le tableau d'ensemble du GSRL en m'arrêtant sur trois éléments qui permettent d'approcher son mode d'insertion dans la sphère des sciences sociales, des religions et des laïcités. Je voudrais parler de ses ressources, je voudrais parler aussi de ses concepts, je voudrais m'arrêter enfin sur ses objets. Les ressources. Dans les années 1970, Bruno Latour s'était arrêté 2 ans dans un centre de recherche californien. De cette expérience, il a extrait une sociologie de la science, rassemblée dans un ouvrage important, La vie de laboratoire. Il y explique qu'il faut toujours se défier de la doctrine de la création charismatique. Rien ne vient, dit-il, sur le terrain de la vérité scientifique, d'une idée décisive, ni même, en tout cas aujourd'hui, d'un acteur isolé. Il n'est de science que dans un contexte de production qui rend possible la découverte. Dans ce contexte, Latour place plusieurs types de ressources. Des ressources contextuelles, des ressources intellectuelles, des ressources institutionnelles. Il semble bien que cette typologie puisse s'appliquer au GSRL. Des ressources contextuelles, tout d'abord. Socialement, l'objet religieux ne faisait guère recette jusque dans les années 1980. Le sociologue britannique Jim Beckford aime à rappeler d'ailleurs que la sociologie des religions accompagnait alors le mouvement. Portée par le paradigme de la sécularisation, elle faisait l'analyse de la disparition même de son objet. On n'en est plus là, 30 ans plus tard. Dans les années 1990, des livres au titre significatif témoignent d'un changement d'époque. Plus rien de la beauté du mort, décrite par Michel de Certeau dans les années 1970. On parle alors de la revanche de Dieu avec Gilles Kepel ou de la désécularisation du monde avec Peter Berger. Dans tous les univers religieux se repèrent des effervescences inédites, des affirmations identitaires qu'on croyait derrière nous et dans le même mouvement, une interrogation à nouveau frais et dans tous les pays sur la question des modes de régulation étatique du phénomène religieux. Cette tendance lourde n'a pas cessé depuis lors. On évoquera demain la place de l'expertise scientifique dans la construction du débat social. Le phénomène vaut dans l'autre sens. Sans conteste, nos recherches ont été portées par l'ampleur, sans cesse plus affirmée, de ces réinventions symboliques que la controverse publique a, depuis les années 1990, constituée en objet central de ses questionnements et de ses inquiétudes. Ressources contextuelles, ressources intellectuelles aussi. L'efficacité d'un laboratoire lui vient aussi, bien sûr, de son capital humain. Les trois directeurs qui se sont succédés, Jean Bobéro, Jean-Paul Willem, moi-même, ont tous dit à un moment ou à un autre de leur parcours leur hantise de voir le groupe s'évider de sa substance. Or, rien de cela n'est venu. Quantitativement, le laboratoire n'a cessé de croître. Le GSRL compte 17 membres titulaires au moment de sa création. Ses effectifs grimpent à 27 en 1998, 40 en 2006, à 47 aujourd'hui. Il faut y ajouter bien sûr nos groupes si actifs de doctorants et de post-doctorants et l'apport précieux de nos collègues associés en France et à l'étranger, dont plusieurs nous font l'amitié d'être présents aujourd'hui parmi nous. Qualitativement aussi, les cercles se sont élargis. Au départ, le centre agrège essentiellement des sociologues, quelques historiens de l'ère européenne. Ils sont spécialistes du catholicisme, du judaïsme, du protestantisme et de la laïcité française. Peu à peu, d'autres horizons se sont ouverts. Dans les années 1990, des spécialistes de l'islam, européens et extra-européens, nous rejoignent. Et de la Chine aussi, autour du programme Pékin-Ville-Sainte. Dans les années 2000, arrivent des spécialistes de la Mongolie, de la Sibérie, de l'Indonésie, du Vietnam, du Mali, avec leurs méthodes propres d'anthropologues, d'historiens de l'art, de musicologues même. Ils nous ouvrent alors à la connaissance du bouddhisme, du taoïsme, du chamanisme, de l'islam subsaharien. Cet apport est à l'origine, pour une part, du changement de dénomination que nous avons opéré en 2005. Le laboratoire se dénommait jusqu'alors Groupe de sociologie des religions et de la laïcité. Il devient, en accolant le pluriel à chacune de ses notes définitoires, le groupe Société, Religion et Laïcité. Ressources contextuelles, ressources intellectuelles, ressources institutionnelles, enfin. On remarquera que nous avons conservé depuis 20 ans le mot « groupe » pour désigner le laboratoire. C'est assez peu courant. Cette autodéfinition exprime d'abord une filiation qui se veut sans allégeance ni exclusive avec le groupe de sociologie des religions qui a porté notre discipline dans les années 1950-1980. Demeurent encore au GSRL des traits de cette aventure antérieure. Peut-être la dette la plus nette est-elle celle qui touche à l'acception même de notre objet, le religieux. Comme au GSR, nous nous sommes toujours défiés au GSRL de vouloir fixer cet objet religieux dans l'en-soi d'une définition éternitaire. Mais le groupe, le mot groupe, vise aussi à dessiner une structure. Le GSRL n'a jamais voulu s'organiser en institution hiérarchique, où tout viendrait du haut de la pyramide, et pas davantage en ensemble sérialisé, se satisfaisant de juxtaposer des individualités. Si nous nous voulons groupe depuis 20 ans, c'est pour indiquer un agencement tout à la fois collectif et souple, ouvert aux influences externes tout autant qu'aux débats internes. Henri Desroches entendait attacher la recherche à ce qu'il appelait un modèle coopératif. Malgré les structurations nécessaires, c'est à cet esprit-là que se réfèrent encore nos modes de fonctionnement. Des ressources, bien sûr, mais aussi des concepts. Le groupe a nourri plusieurs débats au cours de ces dernières années. Il s'est arrêté, par exemple, sur les notions de religion civile, en discutant Bella et Gentile, de pluralisme en reprenant Beckford, de profanation à propos d'Agamben, d'imaginaire, de violence et maintenant de radicalité. Sans doute faut-il faire une place à part à trois autres questions qui nous ont mobilisés sans que d'ailleurs nous nous soyons toujours retrouvés nécessairement sur une position unique. Le concept de laïcisation est intronisé dès les premiers temps du GSRL. Le paradigme de la sécularisation est alors encore très présent dans la littérature anglo-saxonne, dans la sociologie du religion, comme d'ailleurs dans la science politique de type développementaliste. Deux principes clés lui donnent sens. Un principe descriptif. On assiste partout, assiste ses tenants, à une perte d'influence des croyances et des référents religieux. Principe descriptif, mais aussi principe adalytique. On relève partout également, ajoute-t-on, une simultanéité de la sécularisation sociétale et de la sécularisation politique. C'est alors que Jean Bobéro intervient qui met à la question cette évidence. Il fera école au sein du groupe. Son schéma accepte sans doute le principe descriptif selon lequel la religion, du fait de la différenciation des sphères de l'activité sociale, voit son rôle se réduire dans la configuration de nos existences. Il récuse en revanche le principe analytique qui veut que la sécularisation culturelle échoue nécessairement sur une sécularisation étatique. L'idée force est qu'il peut y avoir entre ces deux processus une asynchronie et même une déconnexion. C'est le constat qui conduira notre groupe à étudier la laïcisation, c'est-à-dire la dissociation de l'État d'avec les appareils religieux, pour elle-même, à partir des logiques d'action du politique et non comme un effet automatique de la mutation de la conscience sociale. On a beaucoup travaillé aussi sur la question de la modernité. Dans les années 1990, en appui sur les doctrines de la postmodernité, Yves Lambert initie un questionnement sur ce qu'il appelle alors le tournant axial de la modernité. Ce dialogue avec la sociologie générale s'approfondit quelques années plus tard avec les réflexions de Jean-Paul Wilhelm. Sa théorie, qui fera souche, est qu'il faut distinguer deux grands régimes de modernité. La première modernité, au XIXe, XXe siècle, est marquée par une conception futuriste de l'histoire, par une conception utopique du politique aussi, dans le cadre d'un univers tout entier structuré par les frontières nationales. La seconde modernité, dans les années 1960-1970, nous confronte à bien plus d'incertitudes. Crise de l'histoire, crise du politique, crise de la nation. On est entré dans un monde qui, sans revenir à l'ordre prémoderne, soumet à une réflexivité critique les principes les plus assurés de la civilisation issue des Lumières. Or, cette situation, que Jean-Paul Wilhelm appelle ultra-moderne, n'est pas sans effet sur le religieux. Le doute sécrété par la nouvelle donne lui permet de retrouver des possibilités inédites d'intervention dans l'histoire qui se fait. Laïcité, laïcisation, modernité, le GSRL s'est arrêté enfin, quoique de manière plus discrète, sur l'idée de globalisation. Essentielle pour les sciences sociales des religions et des laïcités, la globalisation est l'une des composantes d'ailleurs de l'ultra-modernité. Nombre de nos travaux en reprennent le concept à partir de ces deux faces, bien décrites par des auteurs comme Arjun Appadurai ou Peter Beyer. Nous constatons d'un côté, par-delà les frontières, une intrication de plus en plus nette des aires civilisationnelles. Nous relevons de l'autre un désir de mur qui signale une volonté de résistance des identités devant l'unification du monde. Ce processus ambivalent a donné lieu souvent, chez nous, à des analyses en termes de modernité plurielle. Les sociétés s'inscrivent sans doute dans le même mouvement général, c'est le plus souvent en retraitant les principes à partir de leur propre singularité culturelle. C'est en appui sur ce cadre général que certains d'entre nous ont pu analyser l'évolution récente de la relation entre le politique et le religieux en terre d'islam, comme d'ailleurs certains traits, tels le recours aux racines chrétiennes de l'Europe, des reconfigurations des régimes de laïcité dans les démocraties occidentales. Reste à savoir sur quels objets nous avons fait travailler ces appareils d'analyse. Le GSRL n'entend évidemment pas embrasser tous les domaines de la discipline. Un retour sur nos recherches depuis 20 ans nous confronte à trois champs plus particuliers d'intérêt. Ils nous accompagnent depuis l'origine, même s'ils n'ont pas été étudiés de la même manière à toutes les époques. Il y a d'abord la question des régimes de laïcité. C'est l'un des points forts du GSRL que de s'être intéressé à la constitution et à l'évolution des régimes modernes d'organisation de la relation Église-État. Ce regard panoramique nous a imposé très vite d'abandonner le singulier du mot laïcité pour le décliner désormais au pluriel. La plupart des pays adhèrent, au moins dans leurs textes fondateurs, aux idées dont la conjonction permet de définir un régime laïque, de liberté de conscience et de neutralité de l'État. Ils n'abordent pas, cependant, la définition de ces notions, non plus que leur articulation, nécessairement de la même manière. L'un des tout premiers ouvrages de notre groupe sur la question « Religion et laïcité dans l'Europe des 12 » paru en 1994, nous confronte déjà, pour ce qui a trait à l'Europe de l'Ouest, à deux voies d'accès à la modernité. Certains États, comme en France, ont rompu le lien avec les Églises pour pouvoir affirmer leur souveraineté. D'autres ont voulu, au contraire, le maintenir sans renoncer le moins du monde à leur autonomie. Nous n'avons cessé depuis lors d'étendre ce type d'investigation, ici aux mondes asiatiques, là au monde arabe et de plus en plus aux mondes africains. Ce travail taxinomique s'accompagne d'un travail généalogique qui accorde beaucoup, à la suite de David Martin et de Stein Rokan, à la méthode des diachronies rétrospectives. La question des régimes de religiosité est évidemment également centrale dans nos travaux. Quel est le statut de la croyance dans la société contemporaine? Un retour sur les 20 années qui viennent de s'écouler démontre une distanciation claire à l'égard de la thèse portée par des auteurs comme Steve Bruce ou avant lui Brian Wilson de la sécularisation, selon laquelle le religieux serait voué à une extinction nécessaire. On a bien plutôt fait prévaloir le schéma de la recomposition que nous distinguons ici de celui de l'individualisation porté par un Thomas Luckman ou de celui du marché développé notamment par Stark ou Yannacone. Des textes du GSRL s'extrait cette idée que partout, même en Europe, le religieux ne s'efface nullement. En même temps qu'il se dissout dans ses formes historiques, il résiste, resurgit, se recompose, se déplace. Et un peu partout, suivant les mêmes modalités. D'un côté, on observe un phénomène de dérégulation, de distanciation par rapport aux institutions traditionnelles du sens, avec des réinventions multiples de la tradition. De l'autre, on relève un mouvement de subjectivation qui vient substituer à la religion héritée, une religion choisie, dont le propre est d'accorder beaucoup au pragmatisme et au conséquentialisme. Évoquons enfin, pour conclure, la question des régimes de politisation. Les événements de ces dernières années nous ont conduits à nous arrêter sur le rôle politique de la religion. Tous les programmes du GSRL, pratiquement, quelle que soit leur aire culturelle de déploiement, se sont intéressés, au cours de la période récente, à ce passage du religieux au politique. Sans l'avoir ignoré, on en parlait peu dans nos toutes premières années. Sans doute était-ce là un effet de la composition disciplinaire de notre laboratoire. C'était aussi un reflet du temps. Demeurait alors plus d'un trait de ce nationalisme séculier qui avait réussi, depuis le XIXe siècle, à obtenir le silence ou du moins la discrétion des théologiens. Or, la réalité a changé. Au cours de ces trois dernières décennies, on a vu ressurgir les politiques de Dieu. Notre recherche s'est saisie de ce mouvement en se focalisant dans l'ordre philosophique sur les résurgences de la réflexion théologico-politique, en s'arrêtant aussi sur les nouveaux types de mobilisation constitués autour de cette ligne de fracture que dessinent aujourd'hui les questions de l'intime et du genre. Dès le début de son parcours, le GSRL a pris cette option d'entrer dans le débat théorique avec les foyers français, étrangers, internationaux de production de la connaissance. C'est encore évidemment notre doctrine, 20 ans plus tard. Nos concepts, nos approches, nos méthodes se construisent aujourd'hui à partir des réflexions engendrées dans les controverses auxquelles nous participons au-delà de notre seule clôture. En pointant de la sorte la dimension dialogique de notre recherche, je dessine déjà l'orientation générale de ce colloque. Il ne s'agira nullement, au cours de ces deux jours, de donner dans une entreprise d'auto-célébration sans fenêtre. Notre tâche sera bien plutôt de souligner nos filiations, de repérer nos avancées, d'annoncer nos projets, mais aussi de signaler, peut-être, au regard de la science qui se fait ailleurs, nos incertitudes et même nos fragilités. Ce colloque n'est qu'une pièce d'un ensemble plus vaste. S'y ajoute, avant qu'elle ne migre vers d'autres lieux, la très belle exposition que Thierry Zarkon a organisée à partir des photographies prises par les chercheurs du GSRL sur leur terrain de recherche. Vous la trouverez au deuxième étage de l'immeuble, dans les couloirs de notre centre. S'y adjoint aussi, dans l'entrée même de ce bâtiment, la présentation sur poster des recherches en cours de nos jeunes chercheurs au laboratoire. Ce colloque n'aurait pas eu lieu, bien sûr, sans la mobilisation des membres du groupe, de son pôle administratif en particulier, avec Laurence Mabie, Stéphanie Goudiabi, Sabrina Pastorelli, non plus que sans l'aide généreuse de l'École pratique des hautes études et du CNRS, du Conseil régional d'Île-de-France, de la Fondation de la Fédération protestante de France et de l'Agence universitaire de la francophonie. Avec Isabelle Charleux, notre directrice adjointe, j'ai plaisir à leur adresser ici mes très profonds remerciements, comme j'ai plaisir aussi à vous remercier de votre présence si nombreuse ce matin. Je vous souhaite à tous un excellent colloque.